RTF.
Salut Alain, ça va ?
Bien vite, toi.
Merci de m'accueillir, je peux entrer ? Ouais, je me souviens de cette cheminée, ça fait au moins 20 ans que je ne l'ai pas vue, c'est cool.
Ah ouais, tu vois.
T'étais stressé un peu avant que je vienne ou bien tu t'en fous ?
Non, rien du tout.
Tu sais de quoi je vais te parler ?
Oh, en gros, de tes soucis.
Voyage au Gounistan, épisode 10, faire la paix. Si vous arrivez ici par hasard, il n'y a pas de hasard. Bienvenue à vous. On vous conseille de commencer par le prologue, ensuite l'épisode 1, l'épisode 2, le 3.
Oui, parce que dans l'ordre, c'est mieux.
Ça y est, c'est le grand jour. Aurélie va enfin parler à son oncle Alain. Elle arrive chez lui, ça sent la volaille grillée et l'orange. Il lui a préparé un bon repas. Il est chaleureux, lui propose un verre de rouge et l'invite à discuter dans le salon. Si elle veut le voir, c'est parce qu'elle tient à revenir sur des propos qu'il avait tenus à l'époque de son coming out. Elle avait 21 ans et s'était sentie démunie face au discours de son oncle. Aujourd'hui, elle veut essayer de dialoguer, de dire ce qui l'a blessée à l'époque. Et secrètement, ce qu'elle espère, c'est peut-être des excuses. Si vous croyez assister à un scénario hollywoodien, l'oncle qui se remet en question, qui s'en veut, qui regrette ses propos homophobes et qui quitte l'épisode main dans la main avec sa nièce pour aller faire de l'aqualicorne sur le lac de Bienne, alors non. Autant vous prévenir tout de suite, ça n'arrivera pas. Si on a malgré tout tenu à vous faire écouter la discussion entre Aurélie et son oncle, c'est pour vous faire entendre les discours contradictoires auxquels nous sommes souvent confrontés. Je suis pas contre ça, mais je suis pas pour. Je suis ouvert, mais faut pas provoquer. Je t'aime, mais bon, t'es pas tout à fait normal. Si autant de Gwyn n'osent pas se outer, n'osent pas dire qui elles sont, c'est pas par paranoïa, c'est parce qu'on peut potentiellement entendre des horreurs qui font du mal. Et vous verrez, le plus complexe dans l'histoire, c'est que le tonton, c'est pas un mauvais bougre.
Bon, bah, au début, on s'y attendait pas, quoi. Alors, si tu t'y attends pas, ben, tu tombes de haut. Et puis après, ben, tu te fais une idée, et puis tu fais un travail sur toi-même, et puis j'ai jamais été contre ça, personnellement. C'est un peu con à dire, mais quand ça touche la famille, ou bien si ça touchait mes enfants... Si ma fille venait me dire ça, je pense que je tomberais encore de 10 étages malgré mon ouverture. Hein.
Pourquoi ?
Eh ben parce que tu te dis, c'est pas possible que ça nous arrive.
Est-ce que tu te souviens du moment où t'as appris mon homosexualité, où elle t'est venue aux oreilles, dans quel contexte, c'était quand, c'était où ?
Oh ben je crois que c'est ta maman qui me l'a dit, t'étais encore au Canada... Et puis sur moi que j'ai dit, elle est cinglée.
Tu te souviens avoir dit ça ?
Ouais, je pense. Me connaissant, je ne peux pas dire autre chose. Je ne pouvais pas dire autre chose à ce moment-là. Puis j'ai dit, tu y crois ? Bon, ça va être passager. Et puis, ouais, parce qu'avant, tu étais plutôt assez dragueuse, quoi. Si j'avais dû mettre parier là-dessus, j'aurais jamais, quoi. Clairement, tu le sens sur certaines personnes. Ben, de toi, j'avais jamais rien ressenti de tout ça, quoi. Des fois, moi, j'ai du mal de comprendre, quoi.
Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Comment c'est possible qu'on peut s'aimer en étant du même sexe, quoi ? Mais non, c'est vrai que même les banques font de la publicité en mettant de nanas qui s'embrassent et tout ça, ça vient à la mode. On le démocratise presque un peu trop. C'est juste si on fait pas de la publicité.
Tu trouves ?
Moi, je trouve. Il y a des trucs que je trouve déplacés de la part de banques comme ça. T'as pas obligé de mettre ça pour avoir des nouveaux clients.
Est-ce que tu te souviens m'avoir dit des choses qui auraient pu être blessantes, dont je me souviens encore aujourd'hui ? Est-ce que t'as des moments en tête où tu te dis « là, on n'a pas été hyper ouvert ou inclusif » ou ce que tu veux ?
Bon, ouvert, il me semble pas que j'ai été rude dans ce sens-là, il me semble pas. Après, je t'ai posé des questions des fois indiscrètes.
Tu te souviens lesquelles ?
Ça m'a toujours intrigué de savoir si dans un couple comme vous, il y en a une qui faisait l'homme et l'autre la femme ou vice-versa. Enfin, comment ça se passait ? Puis tu m'as répondu que non, qu'en principe pas. Enfin, voilà.
Mais moi, je t'ai jamais posé des questions sur ta sexualité, c'est quand même incroyable que tu l'aies fait, non ?
Ben, parce que ça me trottait dans la tête, quoi. Je pense que ça, c'est un truc que, quand on discute avec les gens, il y en a beaucoup qui se posent la question. Un homme et une femme, on sait comment ça se passe. Ouais, là, moi, c'est une question qui m'a toujours un peu trotté. Je me disais, tiens, après, tu vois souvent des couples, tu te dis, il y en a une qui est plus féminine que l'autre. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait penser à ça. Si ça t'a choqué, je m'en excuse, mais je pensais pas t'en choquer.
Donc tu démords pas, tu te démords pas, mais tu t'excuses quand même.
Si ça t'a fait mal, je m'en excuse. Oui, parce que je pensais pas faire mal en posant cette question-là, ce n'était pas une question méchante.
Une fois, tu
Non.
m'as dit, si tu m'avais connu à 20 ans, tu serais pas homo. Tu te souviens de ça?
Ouais, mais ça, c'est quand t'as des verres dans le nez. Que tu dis une connerie qui est bête, quoi.
C'était bête, tu trouves?
Après, c'est du premier degré, quoi. C'est basique, hein. C'est un peu cuculapranine, oui. C'est un peu plus. Mais après, si tu le sers maintenant, comme tu me le sers, oui, ça a l'air con. Après, il faut toujours voir la phrase qu'il y a eu avant, la phrase qu'il y a après. Quand tu me dis que j'ai un petit peu froissé ta sensibilité.
Mais je crois que dans cette phrase-là, spécialement, quand tu dis si tu m'avais connu à 20 ans, tu serais pas homo, il y a énormément de choses en fait. Il y a quand même un truc un peu incestueux parce que t'es mon oncle et puis bizarre, puis
Ouais,
en même
mais je
temps.
dis, il faudrait avoir le contexte. C'est vraiment, moi, je cherche pas d'excuses, hein, pas loin de là, mais il faut toujours voir dans quel contexte ça a été dit, quoi.
Quand tu me dis cette phrase, est-ce qu'il y a aussi un truc du genre c'est juste parce que t'as pas trouvé le bon que t'es lesbienne en fait?
Toi, je veux dire, quand tu étais plus jeune, je me souviens quand même que tu étais jalouse parce que tu t'étais fait piquer un copain ou bien tu étais assez allumée comme fille, quoi. Ouais, en fait, tu donnais cette impression-là.
J'ai un souvenir qui est un peu différent, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'avais besoin d'avoir un copain aussi pour qu'on ne me fasse pas chier avec ces questions.
Parce que déjà à ce moment-là, tu te sentais différente, toi.
Bah, évidemment.
Ah
À
ouais.
partir de 4 ans, je situe.
Ah, carrément. Ah ouais, bah voilà, donc. Ouais, alors c'est presque dommage que. Ouais, tu t'es un peu fait mal, pour rien, quoi.
Mais je crois, ouais.
Ouais, clairement, quoi. Si. Bah voilà, toi, le travail que tu as dû faire, toi, dans ta tête, pour à 21 ans, en parler ouvertement, imagine-toi, c'est depuis l'âge de 4 ans à 21 ans. C'est énorme. Ouais, je pense que nous, pour l'assumer, on a quand même moins travaillé, quoi. Et puis, ouais, ça doit être terrible à vivre, quoi.
C'est pas facile, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Mais c'est vrai que c'est pas hyper facile parce que t'es un peu à côté de tes pompes
Ouais.
pendant toutes tes premières expériences en vrai.
Ouais, parce que tu essaies de faire juste, parce que, ben voilà, c'est nous l'éducation, quoi. Te faire plaisir à tes parents, te montrer que tu vas avec un mec, alors que tes tendances sont tout autres. C'est horrible, quoi.
Puis c'est pas que tes parents, c'est tes parents, ton oncle, ta société en fait, tu vois, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est une société qui fonctionne selon ce modèle, donc tu sais pas trop où est ta place.
Donc, tu as essayé, ouais, tu t'es fait mal, quoi, clairement. Moi, je me rappelle, à 6 ans, on commençait, ouais, depuis tout petit, tu commences à draguer, tu as déjà des petites bonnes amies à l'école enfantine, voilà, ben, c'est des petites bonnes amies, puis après, tu grandis, puis il se passe des autres choses, et puis, ben, tu es toujours en phase avec toi-même, parce que ça se fait parce que tu aimes ça, c'est dans ton truc, ça fait partie de ta découverte. Toute cette évolution-là, moi, elle a été bénéfique pour moi parce qu'elle était en phase avec moi, quoi. Puis toi, t'es passé à côté de tout ça.
Quand je t'ai appelé, tout de suite, t'as pas hésité et t'as pas même réfléchi, j'ai eu l'impression. Pourquoi t'as pas hésité une seconde?
Ben, je trouve que ça m'a fait plaisir que mon point de vue t'intéresse, quoi. Très clairement, puis il n'y avait pas à réfléchir. Tu voulais m'interviewer, moi je suis ouvert à ça, quoi. Après, voilà, tu prenais les risques peut-être d'avoir des trucs qui te plaisent moins, je ne sais pas, comme. Je suis nature, je suis comme ça, et puis voilà, ben, ça m'a fait plaisir.
Ce soir-là, quand Aurélie rentre à la maison, elle ressemble à cette rencontre, calme, mais pas complètement sereine, soulagée, mais pas réconciliée, ni bonne, ni mauvaise fin.
À la fin de la conversation, j'ai quand même l'impression qu'il a pigé quelque chose. Pour la première fois, il s'est mis à ma place, et ça semble l'avoir touché. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçue de moi, déçue de ne pas l'avoir confronté davantage quand il me redisait des choses qui sortaient de l'entendement. Quand il balançait certaines phrases, j'ai ressenti la même paralysie qu'il y a 14 ans. Et ça, c'était extrêmement désagréable. Gueuler, le confronter à ses incohérences, tout ça m'est encore impossible. Me fâcher contre mon oncle, c'est risquer d'impliquer d'autres personnes. Ma grand-mère, ma mère, mes cousins. Quand je me tais et que j'encaisse, et pire, quand je ris un peu pour avaler la pilule, c'est aussi une paix familiale que j'essaie de préserver.
Si le discours d'Alain ne semble pas avoir beaucoup évolué ces 15 dernières années, il y a quelqu'un qui a énormément changé. C'est toi, Aurélie. Toi qui n'aimes pas faire des vagues et qui préfères encaisser plutôt que heurter, eh bien t'y es allé. T'as osé lui parler. T'as fait un sacré chemin vers ta propre paix.
Un petit bout de chemin.
La paix, c'est pas une machine à sous. Tu glisses une pièce et paf, t'alignes tous les 7. Et c'est bingo ! T'as gagné et tu peux aller bronzer à Ibiza. Non, la paix, c'est une sensation qui surgit et qui disparaît, que tu gagnes à petits pas. C'est parfois le travail de toute une vie. Nous, on a l'impression d'avancer, mais il y a encore du chemin. Du chemin à faire toutes et tous ensemble. Quand on s'est lancé dans ce podcast, on avait envie de vous raconter des histoires intimes, ce qui peut être à double tranchant. On a eu peur de recevoir des messages violents, de se prendre une salve d'homophobie en retour. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, grâce à vous. Vos nombreux messages ont été tous très doux. Vous avez été formidables et vous nous avez montré qu'on pouvait parler très librement de Gwynery en 2022 dans une paix royale. C'était super.
C'était génial.
C'était si bien.
À chaque fois qu'on recevait un message sur la Lesbox, c'était la joie dans la maison.
Bonjour Aurélie et Christine, ici c'est Émilie. Moi je suis en couple avec Guillaume depuis 10 ans et on a 3 filles qui ont 5 ans, 4 ans et 7 mois. Et puis je voulais savoir en fait... Le FC Gwynistan, il est classé combien actuellement? Voilà, merci beaucoup et plein de gros becs à vous deux, je vous adore, j'adore vous écouter, vous êtes génial. Plein de gros becs, à bientôt!
Salut Émilie, merci pour ton message.
Merci!
Et puis le FC Gwynistan, bon bah que te dire?
Il est classé, attends je regarde, premier au classement de la FUFA. Il a décidé de ne pas aller au Qatar pour des questions de droits humains. Voilà, mais sinon, ils se portent très bien. C'est une charmante équipe.
Allez, bisous et merci pour ton message. Ciao.
Moi, c'est Florent, j'ai 22 ans et je vis à Rennes. Mais c'est pas de moi dont je veux parler, mais de ma sœur. À l'époque, elle avait 27 ans, elle sortait depuis 10 ans avec son mec et elle a commencé à avoir de sérieux doutes sur son attirance pour les femmes. Alors, étant assez proche d'elle et étant gay aussi, accessoirement, elle s'est tournée vers moi et là, bah, malheureusement, j'ai été de bien mauvais conseils. À lui dire que c'était qu'une passade, qu'elle était peut-être un peu bi, qu'il fallait qu'elle essaye avec les femmes pour se rendre compte qu'elle était follement amoureuse de son mec. Rapidement, elle a essayé avec une femme et bah là, la révélation. Hein. 2 semaines après, elle couchait avec ma meilleure amie et ça fait maintenant presque 3 ans qu'elle vit un amour fou. Alors voilà, je voulais juste donner un conseil, accompagner et écouter toujours les gens dans leurs désirs et surtout essayer de toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on imagine d'eux. Car on peut sacrément se planter et mal les guider. Des bisous.
On a reçu énormément de mails aussi. Très touchants, très personnels souvent. Et parfois, c'est parti en correspondance. Comme avec Ushi, qui nous écrivait souvent après avoir écouté un épisode.
Elle est très drôle, Ushi. On l'a adorée tout de suite.
Chère Aurélie et Christine, je suis une femme trans et lesbienne, et surtout une jeunette fribourgeoise de 78 ans. Il est difficile de trouver une âme sœur à peu près du même âge. Jeudi, il faisait un temps à ne pas mettre une hétéro dehors, mais j'ai tout de même été visiter l'Estime, l'ambassade du Gwynistan à Genève. On a renouvelé mon passeport pour une année, et l'ambiance était très chaleureuse, mais platonique. Gros bisous à vous, Ushi.
On lui a demandé si elle était d'accord qu'on lui lance un coup de fil, et elle a accepté.
On la vous voit ?
Ushi Gruson.
Ushi, c'est Christine.
Bonjour.
Bonjour Christine.
C'est Aurélie avec Christine.
Bonjour Aurélie.
Vous allez bien?
Je vais bien. Merci. Et puis ça ne me gêne absolument pas si vous me tutoyez.
Ah, on se demandait ça. Ok, on va essayer de te tutoyer alors. C'est plus.
Ça va être simple. Oui. Mais ouais, alors dis-nous qui tu es.
Je suis une femme trans. Depuis le décès de ma compagne, j'habite Marly à côté de Fribourg. J'ai été opéré à Munich, sauf que j'ai encore une prostate. Et puis, je n'aime que les femmes. J'ai un joli t-shirt avec le logo lesbienne. Je suis même offert un pins de lesbienne. Mais on ne reconnaît pas une femme lesbienne parmi les autres.
Ouais.
Et sur Fribourg, c'est difficile.
T'as quel âge ? Ah oui, 78 ans, tu l'as dit dans le...
78.
Une jeunette de 78 ans.
Absolument.
Est-ce que t'es heureuse, Ouchi ?
Je suis à peu près heureuse, mais j'aimerais tout de même avoir quelqu'un sur qui poser ma tête ou qu'elle pose sa tête sur mon épaule et pouvoir se tenir par la main. C'est ça qui me manque. Mais sans ça, comme femme, je suis heureuse.
Est-ce que parfois tu sens de la transphobie chez les lesbiennes de ton âge ?
J'ai eu quelques problèmes, mais très peu. Parce que j'essaye de me fondre dans la foule. Mmh. Il y a des gosses dans le quartier là, qui veulent absolument me dire bonjour monsieur, qui me demandent où est Lidl alors qu'on est devant. Mais sans ça, j'ai très peu de problèmes. Au contraire, c'est vraiment très bien accepté.
Qu'est-ce qui te rend heureuse ?
En fait, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de pouvoir aider les gens. Et qui est mon but dans la vie, finalement.
Ouais, et on voulait te remercier, Ouchi, de nous avoir écoutés si attentivement, d'épisode en épisode.
Mais je vous en prie.
Merci pour tes messages.
Malheureusement, après le 10e, il n'y a plus.
Non, c'est fini après.
Oui. Mais je vais pleurer.
Non, on pleure pas. On t'embrasse très très fort.
Mais je vous embrasse aussi.
Ça sent la fin du podcast, Aurélie. Ça sent les vacances. Ça sent la playa.
Et la tortilla de tu padre.
Ça sent los churros con chocolate, por favor.
Et chaque été, en Espagne, c'est aussi l'occasion d'aller en pèlerinage, là où Christine a trouvé la paix il y a quelques années.
Vous voulez encore une histoire de paix ?
Oui. Pardon, je me suis trompée de bouton.
Il y a 3 ans, j'ai fait la paix de justesse avec l'Andalousie. Mais pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps. En 2008. J'ai 28 ans, je tombe folle amoureuse d'une femme.
C'était pas moi, c'était une autre.
J'ai perdu assez de temps, je le dis à mes amis, ma sœur, mes parents, mes collègues. En 2 semaines, j'ai fait le tour de mon monde et j'éprouve un grand soulagement. Mais il y a une personne à qui je ne dis rien. C'est ma grand-mère en Andalousie. Enfin, à elle et à tous mes oncles, mes tantes, mes cousins et mes cousines qui vivent là-bas. Je leur dis rien parce que j'ai peur de leur réaction. Leur monde est hyper normé, faut pas que ça dépasse. Et puis il y a des croix de Jésus dans chaque pièce. Et ma grand-mère marche 5 km tous les jours jusqu'à la statue d'une vierge pour la remercier d'avoir réalisé son vœu. On saura jamais ce que c'est son vœu, mais on peut être sûr que c'est pas que sa petite fille soit Gwyn. Je décide de ne plus aller en Andalousie. Pas question d'y retourner, de mentir, je préfère me planquer en Suisse. 10 ans d'absence et de silence. Chaque année, ma grand-mère demande à mon père pourquoi je ne viens pas. Il ne dit rien.
Moi j'étais mal à l'aise. Vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle. Pourquoi, d'un côté, ma mère ne serait pas quelque chose de normal, que ma fille ait une amoureuse, qu'est-ce qu'il y a là qui m'empêcherait de lui dire ? Et d'autre côté, vis-à-vis de toi, parce que je savais que toi, le fait de tenir cela comme un secret, un non-dit, te mettait mal à l'aise aussi vis-à-vis de ta grand-mère. Donc un jour, on bavardait. Et puis on parle de tout et de rien finalement. Et puis je lui dis comme ça, sans qu'il y ait une idée préconçue, je n'avais pas pensé parler de ça, mais elle m'a demandé des nouvelles de vous. Donc j'ai dit, voilà Nathalie, avec les enfants ça va bien. Elle m'a dit, et Christine ? Et moi je lui dis, mais Christine elle va très bien, elle est heureuse, elle est en couple avec une fille. Je ne sais pas si, comment tu vois ça. Tout simplement m'a dit, ya lo sabía, hijo mío, ya lo sabía. Pero me preguntaba, ¿por qué no me lo decíais?
C'est, mais je le savais déjà, mon fils, pourquoi vous ne me le disiez pas?
Ouais, moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas, j'étais un peu gêné. J'étais gêné, effectivement, d'avoir gardé ces silences, ces non-dits-là, qui n'avaient pas de sens. Elle m'a dit, mais tu sais, tout ça, quelle importance, est-ce qu'elle est heureuse? Et moi, je lui ai dit, mais bien sûr qu'elle est heureuse. Elle dit, mais alors, voilà, qu'est-ce que ça peut faire, le reste ? Alors évidemment, moi, même ma mère, ça m'a étonné. Je savais qu'elle avait une ouverture d'esprit et de pensée quand même assez étonnante pour son âge. Je savais que ma mère, de toute manière, n'aurait pas une réaction négative, absolue et tranchante. Mais à la limite, tu te dis, si c'était le cas, ben tant pis. Tant pis. Alors si quelqu'un d'autre, y compris ma mère, ne le considère pas ainsi, ben tant pis. Tant pis, c'est comme ça, puis c'est comme ça.
Depuis l'Espagne, mon père m'envoie un message pour me dire que ma grand-mère est au courant et qu'elle est heureuse pour moi. Je suis dans la cuisine à Lausanne avec Aurélie, et à ce moment-là, je fonds en larmes. Moi qui pensais que ça n'avait pas d'importance, que j'étais en paix avec l'idée qu'elle ne le sache jamais, je réalise que je me libère d'un immense poids.
À ce moment-là, je demande à Christine pourquoi on n'irait pas en Andalousie.
Et on y va, d'autant plus qu'elle a 98 ans et un cancer du pancréas.
On débarque à Andújar. On entre dans l'appartement. L'abuela est dans son fauteuil, le père de Christine à ses côtés.
C'était génial. C'était génial. J'étais très heureux quand toi et Aurélie, vous êtes arrivés à la maison devant ma mère. C'était vraiment, vraiment, c'était un moment pour moi de joie. De voir, voilà, vous étiez là, et puis vous embrassez l'une et l'autre. C'est un moment de joie pour moi, oui.
Ouais, moi, je n'oublierai jamais. Elle a pris Aurélie dans ses mains. Enfin, elle a pris avec ses deux mains un peu. Elle a un peu écrasé les joues. Elle lui dit « Ah, t'as de beaux yeux.
» Elle avait raison, d'ailleurs.
Abuelita, lo siento por el tiempo perdido. Je dis à l'oreille de ma grand-mère que je suis désolée du temps perdu. Et elle me répond qu'elle m'aime. Quelques jours plus tard, elle meurt. J'ai fait la paix de justesse. On écoute d'autres messages ?
Ah oui !
Salut Aurélie et Christine ! On s'est retrouvés entre potes pour un apéro Zoom et on en profite pour vous laisser un petit mot. On est Clémence
et Juliette.
On s'est rencontrés à la fac de théologie protestante. On était en fait dans une église dans laquelle il y avait un vitrail en forme de mandorle. On a remarqué toutes les deux en même temps qu'en fait il avait une forme de vulve. Et Juliette m'a demandé pleine d'enthousiasme.
Et Clémence, je suis sûre que toi aussi t'aimes les vulves. Et ça finit en love story et maintenant on est amoureuses.
Et nous, c'est Agnès
et Emeline.
On est mariés depuis un an et notre petite particularité, bah, c'est d'être pasteurs toutes les deux.
On s'est rencontrés sur les bancs de la fac de théologie.
C'est beaucoup plus glamour qu'il n'y paraît.
Et le cours sur les femmes dans le Nouveau Testament, ça nous a beaucoup rapprochés.
On a la chance d'être super bien accueillis dans nos paroisses, que ce soit en ville ou à la campagne.
Et avec elles, on essaye d'avancer pour faire en sorte que les paroisses et l'Église soient toujours plus inclusives.
Mais si on a bien un message à faire passer, ça serait celui-là. T'es pas toute seule.
Allez, à bientôt.
Salut. Hey.
Coucou le Gouinistan. Alors, pour mon message de paix et de réconciliation, je voulais partager ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que là, je suis dans le train pour aller à l'office d'état civil pour faire officiellement changer la notion de mon sexe sur les papiers d'identité. Donc c'est un grand moment dans mon parcours de transition. Et c'est un peu c'est un peu fou, j'ai l'impression d'aller me marier avec moi-même en fait. Et enfin voilà, du coup, le message que je voulais faire passer dans ce témoignage, c'est que même si c'est parfois difficile d'être une personne LGBT à cause du regard des autres, moi je pense que c'est juste beau de pouvoir être soi. Et voilà, si vous êtes lesbienne, bi, gay, trans, queer, oubliez jamais que vous êtes des belles personnes et que vous êtes légitime, totalement légitime, que vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Et je vous envoie plein d'amour.
Nous aussi, on t'envoie plein d'amour. Et puisque c'est un peu la fête de l'amour, on a eu envie, pour conclure cet épisode, d'inviter à la maison Léna et Lara. Elles nous ont accompagnées dès le début. Elles nous ont raconté leur coming out. Léna nous a montré son tatouage. Elles nous ont emmenés dans leur famille choisie. Avec elles, on est allé à Paris voir Alice Coffin.
Elles ont été un soutien de tous les instants.
Ce soir, chez nous, un peu nostalgiques, elles partagent leur tentative d'apaisement.
Bah oui, c'est la thématique de cet épisode.
Il s'est quand même passé 6 mois depuis le début du podcast. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans vos vies ?
Par rapport au coming out, j'ai l'impression que j'avais... Parce que moi, je ne suis pas out au niveau de mon travail à 100%. Et puis, j'avais vraiment toujours ce truc où j'étais en lutte perpétuelle avec moi-même de me dire... En fait, si je ne suis pas out au travail, ça ne me ressemble pas parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui me cache de ça dans ma vie de tous les jours. Et du coup, en fait, j'étais un peu dans cette lutte de... Je dois faire mon coming out. Et puis, en fait, au final, maintenant, je me rends compte que bah, je n'ai pas besoin de faire mon coming out à tout le monde. Ce n'est pas grave et ça ne change pas qui je suis, en fait.
Ça ne te rend pas une gouine moins courageuse ou qui nuit à une quelconque cause, etc. C'est ça que tu dis?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est quelque part, c'est leur livrer une partie de mon intimité à certaines personnes, et ces gens, certaines personnes, j'ai pas forcément envie de livrer certaines intimités, mais ça veut pas dire que je suis pas une personne entière et que je revendique pas des choses ou des causes au fond de moi, sans faire mon coming out sur mon lieu de travail, par exemple.
Non, mais ça veut surtout dire que ton temps, il est important et qu'il faut pas le gaspiller avec des gens qui le méritent pas.
Ça. Oui, il y a un peu ça aussi, je pense, ouais. Et c'est vrai que de remuer tous ces trucs de coming out, de... Oui, en fait, je suis out dans ma vie de tous les jours, mais pas au travail, et ci et ça. Et en fait, c'était vraiment hyper un peu un combat quotidien. Et maintenant, ça l'est plus du tout. Je me sens beaucoup mieux avec ça maintenant. Mais vraiment, notamment depuis le début du podcast, en repensant à toutes ces histoires de coming out, où ben, en fait, c'est OK, ça change pas qui je suis.
Et pour toi, Lara, comment tu sens que ça a bougé en toi depuis ce moment où tu as fait ton coming out à ton père derrière une vache dans ton village valaisan? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Je pense que j'ai eu accès à énormément d'outils pour comprendre ce qui me traversait, ce que j'étais. Et je pense qu'il me manquait énormément de réponses, de juste savoir que ça allait être OK, tu vois. Et juste le fait aussi de... C'est horrible parce que j'aime tellement là d'où je viens. Puis j'aurais jamais été... T'es heureuse là-bas. C'est hyper dur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être en exil là encore maintenant. Tu vois. J'ai jamais pu... Oh, je sais pas comment dire ça, mais... Il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse là-bas, mais pas avec les bonnes personnes et pas les bonnes façons de penser. Mais du coup, c'est hyper bizarre d'être toujours un peu le cul en deux chaises, d'avoir un attachement à un endroit. C'est un peu fort le mot exil et tout, mais... J'aimerais juste qu'on puisse être qui on veut être à l'endroit où on aimerait être, tu vois. Pas qu'on ait besoin de bouger dans une ville ou ailleurs, quoi. Et je pense pas que ce soit encore résolu aujourd'hui, ça, mais j'espère qu'un jour, les gens pourront l'être, tu vois. Pardon, c'est hyper important.
Je trouve ça hyper fort parce qu'on a beaucoup parlé de ça, des gens, de partir, de s'entourer, de chercher... En fait, t'es obligé de chercher ailleurs, tu vois. C'est ça que j'entends quand tu dis ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de chercher ailleurs. Moi, ça m'a hyper bouleversée le jour où on était chez vous avec... la votation du mariage pour tous et toutes. Et puis que tout le monde en avait une obsession, c'était le résultat de notre commune d'origine, quoi.
Bah, je pense que du coup, le fait que moi, ma commune a voté non, fait vraiment ce truc de dire, bah, en fait, j'ai bien fait de partir, tu vois. Et tous les gens que j'ai sur place et qui sont mes proches sont des gens qui comprennent pas ce résultat. Et bah, peut-être sur une note un peu plus positive, je me suis retrouvée dans un bistrot à un moment donné avec vraiment un peu des gens du village vraiment que j'aurais pas du tout pensé, qui ont tenu un soir à venir me dire en fait t'as ta place ici. Et je me rends compte qu'ils veulent me dire que en fait ils savent que je suis Gwyn, ils savent que notre de mes copines est Gwyn, et que ils disent qu'en fait on sait que vous êtes du village, on voulait juste vous dire que vous appartenez ici et que c'est fou, tu vois, parce que c'est vraiment des gens, tu te dis, ouais, en fait, c'est vraiment les dernières personnes du village que j'ai envie qu'ils sachent. Et en fait, ils avaient besoin de me dire, et j'ai trouvé ça hyper fou qu'ils me le disent et tout ça. Et vous étiez dehors, vous compreniez pas pourquoi je restais avec cette équipe-là. Ils disaient, mais vous êtes venu me chercher, puis j'étais là, non, en fait, je crois que je dois rester, je crois que je dois parler avec ces gens. Et il y a tous ces trucs de village où tu sais qu'il y a d'autres enfants du village qui sont pas out. Et c'est des gens, ils en parlent entre eux, c'est des papas et des trucs. Et puis j'étais un peu là et c'est en train de tirer les ficelles pour essayer de dire, en fait, il faut faire gaffe, quoi, de comment vous parlez entre vous. C'était assez intense. Et ça m'a, bah, par exemple, voilà, ça m'a un peu donné de la paix, tu vois, de me dire, bah, si eux, ils ont fait le pas de venir me dire ça, eh bah, ben, c'est que ça va changer et que c'est cool dans mon village, quand même.
«
C'est notre dernier enregistrement, en fait.
Ouais.
Ah, dernier.
Ouais.
Ok. Vous vous sentez comment?
Moi, je réalise pas complètement que c'est fini.
Ouais, il me semble qu'au début, quand vous parliez de pourquoi vous voulez faire ce podcast, c'était pour trouver la paix, non? C'est toi qui dis ça? Non? Tu l'as trouvé, tu penses?
Je sais pas si c'est la paix, en fait. Je sais pas très bien ce que c'est la paix. Ce que je sais, c'est que j'ai fait du chemin avec toutes les histoires qu'on a récoltées. Je trouve que c'était hyper beau, en fait. Moi, j'ai aimé tous ces gens. C'était assez... improvisé, en fait, ce chemin qu'on a fait ensemble, non? Je sais pas.
Ah oui, enfin, même pour nous, je crois que c'était... Enfin, pour moi, en tout cas... Un peu de se dire, ah oui, bon, on participe, super, mais pas sans se rendre compte de l'importance que ça allait prendre. On s'y attendait pas, mais c'est hyper beau, et puis c'est une magnifique aventure, en tout cas.
Bah, santé, alors.
Bien, santé, les
santé.
Filles.
Santé,
bravo.
À vous.
Bonjour, je m'appelle Nicole Marty, je suis présidente de l'association Lilith, l'association qui organise les soirées lesbiennes LOL dont vous aviez parlé dans un précédent épisode. Et en Suisse, on a la chance qu'on a un réseau associatif qui est pas mal grand, donc peu importe où tu te trouves, tu vas trouver une association pas trop loin de chez toi, mixte, pas mixte, enfin il y a les critères que tu voudras pour avoir un endroit qui va t'accueillir, t'écouter... et te soutenir. Et puis maintenant, ben, on a la chance aussi d'avoir vos podcasts. Alors voilà, je voulais juste dire comme ça mes remerciements vraiment pour les personnes qui ont participé et qui ont partagé leurs récits. Je voulais vraiment vous remercier pour ce magnifique voyage qu'on a fait en votre compagnie. Alors du fond du cœur, vraiment un grand, grand merci.
J'ai l'impression que c'est l'heure de se quitter, Aurélie.
Quoi, tu vas me quitter?
Mais non, mais de dire adieu.
Tu vas me dire adieu?
Mais non, mais pas à toi.
On est d'accord qu'on reste ensemble, toi et moi, après le podcast?
Mais oui, mon amour, mais on dit juste au revoir aux gens.
Ok.
J'ai beau te dire adieu, tu vois, c'est pas l'amour qui pleut sur moi. J'ai beau te dire que je me tire, je reviens quand même dans tes bras.
Je m'appelle Anaïs, je sais que ma copine écoute votre podcast et j'aimerais lui dire que c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée, que je suis heureuse d'être lesbienne avec elle et que j'ai hâte qu'on continue de construire notre famille ensemble. Je t'aime Lorraine.
Tant d'amour!
On tient à dire toute notre gratitude et notre joie d'avoir bossé avec des gens formidables et talentueux. À la musique Sandor, qui a composé ce morceau pour Voyage au Gounistan. En est sortie la chanson Amour Propre, disponible sur toutes les plateformes.
À la production, Grégoire Moll. Tu dis salut ?
Salut ! Et Véronique Marty.
Salut ! À la réalisation, le génial Marc Frochot.
Salut le Gounistan !
Pour le visuel du podcast, c'était Laurent Jan.
Hello !
Et merci à toutes les personnes qui ont raconté leurs histoires ici.
Votre confiance nous chamboule encore rien que d'y repenser.
Quelle chance on a de vous avoir dans nos vies.
Et on a oublié Chai. Merci à Chai qui a dormi à nos pieds pendant tout le voyage.
Vive le Gounistan libre.
Et bravo les lesbiennes.
J'ai beau...